Chapitre 18e. Mes dernières aventures en Afrique du Sud. Il n'est pas de catégorie sociale où j'ai rencontré des êtres aussi jaloux que les militaires, ni aussi portés à se diviser en cliques. Leur querelle déchirait l'Afrique du Sud. Nous entendions dire en tout lieu que tel général était à coups de tirer avec tel autre. Mais c'est entre les gens de Roberts et ceux de Buller que la scission avait pris une gravité particulière. Les premiers montraient une sévérité cruelle pour le libérateur de Lady Smith. Il était pénible d'entendre leurs commentaires sur le désaccord que présentaient ces télégrammes du matin et ces télégrammes du soir. Buller, d'ailleurs, ne m'inspirait pas une extrême sympathie. C'était un brave homme, mais de fibres grossières. Plusieurs anecdotes authentiques prouvaient son manque de tact. Le jour de son entrée à Lady Smith, les défenseurs, qui avaient réservé quelques gâteaux et autres friandises pour le jour de la délivrance, les mirent sur la table au déjeuner de bienvenue. « Je croyais que la garnison mourait de faim, » dit Buller en promenant les yeux autour de lui. Cette histoire m'a été contée à diverses reprises et avec amertume par des hommes qui parlaient en connaissance de cause. Sans doute il eût été triste de voir s'achever obscurément une carrière comme celle de Buller, faite de durs combats et de longs mérites. Mais on ne saurait nier que dans l'armée française comme dans toute autre, il n'eût pas survécu à Colinceau. L'étrange allocution qu'il prononça après la guerre à un déjeuner de Londres montra, je crois, que son esprit avait un peu perdu le contact des réalités. Roberts, selon son habitude, joua le plus noble jeu dans cette malheureuse controverse. « Je traiterai Buller avec toute la tendresse possible, » déclara-t-il à un officier de son état-major, et il tint jusqu'au bout sa parole. Je trouvai à mon retour la situation de mon hôpital bien améliorée, mais personnellement, sans éprouver rien d'assez grave pour interrompre mes fonctions, je me sentais malade. Je crois que s'il m'avait vacciné à ce moment, j'aurais eu la dysenterie. Certainement, il s'était glissé dans mon organisme quelque chose de perfide, car une bonne dizaine d'années se passèrent avant que ma digestion retrouvât son diapason. De surcroît, un imbécile, au cours d'une de ses matinées de football, que nous organisions entre hôpitaux pour distraire les hommes d'un labeur sans relâche, m'avait infligé de sérieuses meurtrissures dans les côtés, ce qui n'était pas pour me remettre. Charles Gibbs me corseta de plâtre, mais je devenais trop vieux pour subir sans maugréer un traitement dont j'aurais souri en mon jeune temps. La zizanie régnait entre notre chef militaire, le major Drury, personnification de la discipline routinière, et notre personnel domestique, cuisinier et homme de salle, qui représentait l'esprit civil d'indépendance. Les choses en étaient venues à un tel point d'acuité qu'à mon retour du front, je trouvais le travail tout désorganisé au détriment des malades. Drury jetait feu et flamme, ce qui avait pour effet d'accroître l'insubordination. Un scandale semblait près d'éclater. J'eus le sentiment que c'était une de ces affaires où M. Langman ou souhaitait que j'intervinsse. J'en demandai la permission au major Drury, qui ne laissa pas, j'imagine, d'en être fort heureux, car il était au bout de ses moyens, et la manifestation publique de la désorganisation dans une unité sanitaire eût discrédité le commandement. Assis devant la grande table du mess, je mandai les 6 meneurs de la bande. Ils s'alignèrent devant moi, d'un air sombre qui exprimait la révolte. Je leur parlai gentiment, doucement. Je leur dis que j'étais dans quelque mesure responsable d'eux, puisque je les avais pour la plupart enrôlés. Je reconnus avec sympathie les épreuves qu'ils avaient endurées. Tous, assurément, nous avions les nerfs tendus à l'excès. Mais le devoir et la discipline devaient parler plus haut que la fatigue physique. Les chefs, eux aussi, avaient fourni un gros effort. Des concessions s'imposaient de part et d'autre. Prenant ensuite une voix plus grave, « Ceci, ajoutai-je, menace de finir devant la cour martiale. Je me suis entremis au dernier moment. Comprenez bien votre situation. Vous avez désobéi en service commandé devant l'ennemi. Il n'y a, pour une pareille faute, qu'un châtiment, la mort. » Six perdus en face de moi s'écarquillèrent. J'avais produit mon effet. J'examinai les griefs des hommes, je promis qu'on en tiendrait compte, mais j'exigeais, avant d'aller plus loin, qu'il fût fait amende honorable au major Drury. Mes 6 individus, en sortant, avaient l'oreille basse. L'amende honorable fut bientôt faite, et nous n'eûmes plus d'ennui au camp. Mais, d'autre part, nous eûmes vers cette époque un sujet d'alarme bien imprévu. Archie Langman, qui s'était montré pour moi un camarade lors de la visite à l'armée, était reparti pour battre le pays avec la Yeomanry impériale. Il alla tout droit se jeter dans les bras de Devette, qui venait de faire une incursion sur la ligne et avait remporté une petite victoire en un lieu nommé Roudoual. Le fameux chef de guérilla était juste autant que sévère. Il traitait avec considération les gens du service de santé, de sorte qu'Archie se tira pour le mieux de son aventure. Mais je passai un ou deux mauvais jours entre le moment où j'appris sa capture et celui où je connus sa mise en liberté. L'armée avait progressé sans trop se battre. Nous étions maîtres de Pretoria. Nous avions tous l'impression que la campagne s'achevait, qu'il n'y avait plus qu'un nettoyage général à faire. Je commençais d'envisager mon retour en Europe. Outre que le service médical ne subissait plus la pression des événements, deux influences puissantes s'exerçaient sur moi. D'une part, je m'étais mis à écrire l'histoire de la guerre, et si maintes fois j'en empruntais les éléments à des témoins oculaires, je comprenais que, sur bien des points, je devais me documenter au centre des informations. D'où nécessité de m'y rendre si je voulais que mon livre fût le premier à paraître. D'autre part, une crise politique s'annonçait en Angleterre. Elle entraînerait des élections générales, et il y avait apparence que j'y fusse candidat. Mais comment quitter l'Afrique sans être allé à Pretoria? J'obtins un congé, non sans peine, et le 22 juin, je me mettais en route, malgré l'état précaire de la voie ferrée, coupée en beaucoup d'endroits. Ce voyage est un des plus singuliers que j'ai fait en chemin de fer. On ne savait ce qu'arriverait d'une minute à l'autre. Le major Henry Williams, secrétaire de Lord Milner, m'avait aimablement permis de partager son wagon spécial, et nous avions avec nous un petit homme fort éveillé du nom d'Amri, alors inconnu, mais qui occupe justement aujourd'hui une place en haut lieu. Il n'était pas notre seul compagnon, j'ai oublié les autres. Quand le train s'arrêtait en plein Beld, ce qu'il faisait constamment, nous ignorions si c'était pour 5 minutes ou, comme ce fut le cas ordinaire, pour 5 heures. Et nous ne pouvions nous en éloigner, car il repartait sans avis. Nous rencontrâmes un train descendant dont toutes les portières étaient brisées. Des bourgs embusqués y avaient blessé 20 de personnes. Nous nous attendions constamment à une attaque. Une fois, durant une de nos longues haltes, nous vîmes un cavalier venir à nous au petit galop sur l'immense étendue verte. Nous descendîmes pour causer avec lui. C'était un grand gaillard efflanqué, sans armes, et qui avait une figure de noceur débonnaire. Il nous dit être un loyal fermier britannique, mais je ne doutais pas, en mon fort intérieur, qu'il ne fût un éclaireur bourg curieux de voir ce que portait notre train. Il resta un moment à bavarder avec nous, tranquillement planté sur sa selle, puis soudain, il fit faire volte-face à son cheval et repartit comme il était venu. Un peu plus bas sur la ligne, nous vîmes brûler une ferme. Alentour cavalcadait un parti de nos irréguliers. C'était, nous dit-on, une ferme de 2 bêtes. On le châtiait de la sorte pour avoir endommagé la voie. Nous aurions pu nous croire devant une scène de Moyen-Âge quand une compagnie de routiers écossais insultait la frontière anglaise. En arrivant à Roudoual, où Devet avait si malheureusement surpris notre milice de Derbyshire, le train dut stopper. La voie était en réparation, et nous pûmes parcourir le terrain. Il était semé de gros obus enlevés d'un train mis au pillage. Sur une étendue de plusieurs acres se voyaient des amas de lettres entièrement ou partiellement calcinées, et dont le vent faisait papillonner des lambeaux. Devet avait brûlé les sacs de la poste, accomplissant là un de ses exploits les moins glorieux. Napoléon, d'ailleurs, avait fait pire quand il avait publié les lettres provenant d'un courrier anglais intercepté. À quoi les Anglais avaient riposté par un procédé semblable, ce qui n'était pas pour amener la paix dans les familles. Je saisis une des lettres qui voltigeait vers moi, et j'y lus, tracée d'une écriture maladroite, cette phrase « J'espère que vous avez maintenant tué tous les bourgs », soulignée de nombre X qui signifiait 1000 baisers. Au nombre des objets épars se trouvaient les instruments de la musique qu'avaient foulé au passage Devet et ses lourds chariots. Je fus un matin de bonne heure traversé d'un frisson étrange en apercevant le quai désert d'une gare et en lisant, imprimé sur une pancarte, le nom de Pretoria. Ici, nous nous trouvions enfin au centre de tout. L'hôtel du Transvaal était ouvert. Il fut mon quartier général durant les quelques jours que je passai à consulter hommes et choses. J'eus pour premier soin de voir Lord Roberts, qui désirait m'interroger à propos d'articles retentissants publiés par Burdett Coutts dans la London Press sur l'état de nos hôpitaux. Il va de soi qu'en bien des cas, sinon même en tous, cet état avait pu avoir quelque chose d'effroyable. Mais la faute en revenait à la gravité subite et terrible des circonstances. Chacun avait fait de son mieux pour parer au mal, et y avait étonnamment réussi, mais au prix de quelle misère. C'est ce que j'expliquai à Lord Roberts et aussi à la Commission royale de Londres. ma qualité de volontaire, parti à titre indépendant et sans solde, donnait plus de poids à mes paroles qu'à celles d'un haut personnage dont l'autorité personnelle eût été en cause. Je revois encore Lord Roberts assis dans sa chambre, derrière un petit bureau. Avenant et vif, il évoqua tout de suite notre première rencontre à Londres. Ses yeux bien clairs, bien que peu noyés par l'âge, exprimaient l'intelligence et la bienveillance. Ma mémoire à peine a retrouvé, dans toute l'histoire militaire, l'exemple d'un autre chef ainsi rappelé de la retraite à 70 ans passés, pour conduire une campagne aussi ardue. Les bourgs prolongeaient en vain la résistance. Sa belle marche de flanc sur Paardeberg avait bel et bien consommé leur défaite. Nous eûmes une conversation brève, mais animée. Je ne devais plus le revoir que lorsqu'il vint chez moi à Hindhead, en 1902, vérifier la portée de mon fusil. Je n'eus pas l'occasion de m'entretenir avec Kitchener à Pretoria. Mais un jour, sur le Veld, un homme de haute stature, passant près de moi au galop d'un énorme cheval bai, me salua d'un signe de la main, et je reconnus l'illustre soldat. Son étoile avait pâli depuis Paardeberg, et le fait est qu'on s'explique mal sa tactique, car il trouva le moyen de perdre quelques 2000 hommes en attaquant les bourgs alors que ceux-ci étaient en fuite et de toute manière acculés à la reddition. Peut-être avait-il ses raisons qui échappent à un profane. Mais j'ai entendu beaucoup de soldats exprimer avec irritation sur cette affaire, car une partie des troupes lancées à l'attaque était de l'infanterie montée, dont un ramin arrêta le galop et qui dès lors ne peut rien faire. Le colonel Haney avait émis une protestation avant d'obéir aux ordres qu'on lui donnait et qui devait lui coûter la vie, comme à beaucoup de ses hommes. Cependant, quand il s'agit d'organiser les lignes de communication, c'est vers Kitchener que tout le monde se tourna. Là, réellement, il était à son affaire, plus que dans la bataille, où je me suis laissé dire, par des gens qui avaient marché avec lui, qu'il était agité, nerveux, alors que Roberts, à mesure que croissait le danger, devenait plus froid et plus calme. Il est vrai que dans l'organisation, Kitchener apportait une précision glaciale, inhumaine. « J'ai le regret, lui demandait un officier, de porter à votre connaissance une terrible explosion de dynamite qui a tué 50 cafres. « Vous faut-il d'autres dynamites ?» répondit télégraphiquement Kitchener. Il y avait contre l'hôtel que j'habitais un banc où de vieux burgers barbus venaient chaque jour fumer leurs pipes. J'y allais m'asseoir parmi eux avec ma pipe garnie du meilleur Magaliesberg. Comme je ne disais rien, il ne tardait pas à engager la conversation dans un anglais très correct auquel il prêtait seulement une accentuation rude et gutturale. Botha n'était pas loin de la ville. Nous savions que les espions lui en apportaient toutes les nuits des nouvelles. Flairant chez mes bons apôtres un groupe de ses indicateurs, je crus devoir leur donner matière à réflexion. « À votre avis, quand aurons-nous la paix, monsieur ?» me dit l'un d'eux après échange de quelques paroles banales. Ils étaient tous persuadés que la nation britannique aspirait ardemment et unanimement à la paix. « Oh, dis-je, je ne l'espère pas de longtemps encore. » Ils se regardèrent, et mon interlocuteur reprit « Qu'est-ce qui vous fait dire cela, monsieur ?»« Voici, répliquai-je, ce pays va devenir colonie britannique. Il serait embarrassant pour nous d'avoir une colonie pleine de gens dangereux. Nous ne pourrions plus les tuer à ce moment-là, comprenez-vous ? Ils seraient nos compatriotes, et comme nous-mêmes, protégés par la loi. Nous n'avons donc pas d'autre ressource que de les tuer autant que possible dès à présent. » Les vieux grommelèrent en tirant furieusement sur leurs pipes, mais ils ne surent que me répondre. Il ne m'est pas interdit de croire que mes paroles allaient au but que je visais. La plus longue excursion que nous fîmes de Pretoria fut à Waterball, où Bennett Burgley m'emmena dans une charrette du Cap. Nous fûmes tout près, en cette occasion, d'aller donner sur une patrouille bourre, forte d'une 12aine d'hommes. Burgley ne voulait pas croire que ce fussent des ennemis. Je dus, pour le convaincre, lui faire observer qu'il montait des chevaux blancs, ce qui était un fait des plus rares dans notre armée. Et il me donna raison quand il s'en fut assuré avec sa jumelle. Sans doute ces gens accomplissaient-ils une mission particulière, car ils ne nous accordèrent pas la moindre attention, bien qu'il leur eût été facile de nous barrer la route. Nous allions visiter le camp de prisonniers où tant de nos soldats, anglais et coloniaux, avaient subi l'humiliation et la contrainte jusqu'au jour de la délivrance, survenue seulement une ou deux semaines auparavant. Très vaste, il occupait une superficie de plusieurs acres, où s'éparpillaient dans tous les sens les objets les plus disparates. Je m'adjugeai une carabine bourre brisée par un prisonnier anglais, un triangle d'orchestre, une chaussette à demi tricotée dont les aiguilles étaient faites de fils de fer barbelés, et un assortiment de chaînes pour les pieds provenant de la prison du camp, presque à la veille de la délivrance, quelques hussards avaient creusé une galerie souterraine. Travail confondant, si l'on songe qu'il avait été accompli et mené de bout en bout à l'aide, principalement, de cuillères. J'y descendis, et M. Burley me photographia au moment où j'en ressortais. Un certain nombre de mes amis ont gardé une épreuve de cette image ainsi dédicacée, au sortir d'un trou, comme l'Empire britannique. Je passai un jour à Johannesburg, parcourant ses rues désertes, visitant ses grandes mines, aujourd'hui mortes ou tout au moins inanimées. Je descendis au fond de l'une d'elles, la Robinson. Plaisir plus que médiocre. Les cages ne fonctionnant pas, nous eûmes à descendre des centaines, qui me parurent des milliers, de marches, où le bois glissant se dérobait sous nos pas, tandis que cliquetaient à nos oreilles les seaux de drainage. On nous donna les tuyaux habituels, d'après quoi les valeurs minières allaient faire un bond. J'eus le tort de vouloir en profiter, ils étaient tous déplorables. Le 4 juillet, après une journée sans événement et par là même significative de l'étreinte toujours plus rigoureuse que nous exercions sur le pays, je me retrouvai à l'hôpital Langman. Les heures y coulaient tranquilles. Cependant, un de nos pauvres auxiliaires venait de succomber à un érysipèle, dont une épidémie avait éclaté dans les salles et qui était d'origine non pas traumatique mais inexpliquée. Je mentionne le fait parce que la dysenterie avait été si générale qu'elle semblait exclure toute autre maladie et que, pour la première fois, cet érysipèle en manifestait une autre. Toute l'armée eût été vaccinée qu'il n'y aurait jamais eu de guerre plus saine. Nous avions peu de cas opératoires. Pourtant, je me rappelle une opération pratiquée sur l'attaché militaire hollandais près des bourgs. Nous l'avions, à la suite de je ne sais quel engagement, recueilli blessé et paralysé. Une balle de shrapnel lui avait brisé une des vertèbres cervicales, l'os pressait sur les nerfs qui avaient cessé de fonctionner. L'opérateur était Watson Chain de Londres. Il avait fait une incision franche dans l'os et il essayait d'en soulever l'arc brisé avec un solide forceps quand se produisit une chose extraordinaire. De la grande brèche rouge surgit une colonne d'eau claire, haute de 2 pieds, qui s'épanouit au sommet comme un petit palmier, décrut progressivement jusqu'à 2 pouces et finit par disparaître. Je n'avais, je le confesse, aucune idée de ce que cela pouvait être, et la plupart des chirurgiens présents étaient, je crois, tout aussi interdits que moi. Le mystère me fut expliqué par Charles Gibbs, mon mentor en ces matières. Il me dit que le fluide cérébro-spinal, qui est habituellement une simple humeur entourant la moelle, avait été stimulé et accru par la pression de l'os brisé. Finalement, il avait détendu toute la membrane enveloppante. Le forceps avait, dans cette membrane, ouvert un petit trou, et le fluide comprimé avait jailli dans l'air, comme je l'avais vu. Peut-être sa libération avait-elle été trop subite, car le patient mourut peu après qu'on lui emportait de la table d'opération. Charles Gibbs pratique encore. Il est le premier chirurgien de l'hôpital de Charing Cross. Il me pardonnera si je lui rappelle qu'un jour où je m'employais sous sa direction, je marquais un point sur lui. Un de nos dysentériques, visiblement près de mourir, demandait avec insistance, d'une voix faible, qu'on lui donnât à manger quelque chose de solide. Bien entendu, la première des règles dans le traitement de la dysenterie, c'est que le malade soit mis au régime liquide, car l'intestin étant ulcéré, toute perforation entraînera la mort par péritonite. Je dis à Gibbs, « Croyez-vous que la mort de cet homme soit certaine ?»« Il est certainement aussi mal que possible, » me répondit Gibbs. « Eh bien alors, » répliquai-je, « je propose de lui donner des aliments solides. » Gibbs, choqué d'une pareille idée, secoua la tête. « Vous prenez là une responsabilité grave. »« Qu'est-ce que cela peut faire, » demandai-je, « s'il est de toute façon condamné ?»« Cela peut faire que c'est vous qui l'aurez tué, et non la maladie. »« Soit, j'en accepte le risque. » Et je donnais satisfaction au mourant. L'année d'après, à Édimbourg, lors d'une réunion électorale où je devais me produire, on me remit la lettre suivante que j'ai extrait de mon dossier de curiosité. 128 Royal Road, Kennington Park, London, South East. 1er octobre 1900. Monsieur, ayant été l'un de vos malades à l'hôpital Langman, de Bloemfontein, j'espère que vous m'excuserez si je prends la liberté de vous souhaiter un bon succès à Édimbourg. J'y suis poussé non seulement par mes principes, mais par le fait que moi et d'autres devons la vie à votre bonté et à vos soins. Vous ne pouvez vous souvenir de moi, monsieur, mais soyez certain que j'ai, moi, votre souvenir gravé dans mon cœur et qu'il ne s'en effacera jamais. En vous renouvelant mes excuses et mes souhaits, je reste, monsieur, votre obéissant, soldat Hanlon, C.I.V. M. Hanlon était mon ancien dysentérique. Il n'avait cessé d'aller mieux depuis qu'il avait pris une nourriture subsistentielle. Mais je ne propose pas le fait en exemple à mes confrères médecins. Le 11 juillet, nous nous embarquâmes au cap sur le Brayton pour rentrer en Angleterre. Avant mon départ, j'allais voir Sir Alfred Milner. Je le trouvais beaucoup plus vieux que quelques années auparavant, quand nous nous étions rencontrés à la veille de nos difficultés africaines. Ses cheveux grisonnaient, ses épaules se voûtaient, mais son cœur vaillant demeurait toujours aussi ferme. Il n'eut pas une défaillance avant d'en avoir fini avec sa tâche inexorable. Il ne commit, je crois, d'autre erreur que de vouloir, une fois la guerre terminée, prolonger en Afrique le régime de la loi martiale. Mais qui eût mieux fait, ou même aussi bien que lui, dans d'aussi intolérables conditions? Le Brayton emportait un choix remarquable de passagers, à qui nous dûmes une traversée joyeuse. Entre les plus gais se trouvaient le duc de Norfolk et son frère Lord Edward Talbot. C'était une chose peu banale que de voir le plus ancien des barons anglais et un Hollandais dodu assis face à face sur un espar et s'escrimant l'un contre l'autre avec des vessies pour voir lequel des deux abattrait son adversaire. Si je ne m'abuse, le sang en décida. Il y avait aussi Sir John Willoughby, bien connu pour avoir participé au Red Jameson, Lady Sarah Wilson, qui venait de Maeve King, le duc de Marlborough, Lady Arthur Grosvenor, l'honorable Ivor Guest et beaucoup de soldats fameux. Je fus spécialement favorisé en ce que l'intimité créée par le voyage resserra l'amitié qui me liait déjà à Fletcher Robinson et à Nevinson. Un seul nuage obscurcit la sérénité de ces jours dorés. Un officier étranger dont je tairai le nom, et qui revenait de chez les bourgs, se répandait en propos déraisonnables sur les événements dont il avait été le témoin. Il prétendit en ma présence que les Anglais faisaient habituellement usage de Baldoum-Doum, sur quoi je perdis patience et le traitai de menteur. Je dois dire qu'ensuite il se conduisit fort bien, car réflexion faite, il reconnut ses torts et chargea mon ami Robinson de m'offrir ses excuses. Je répondis que je ne les acceptais pas, car ce n'était pas moi qui l'avais insulté. Une heure plus tard, mon ami Robinson m'apportait la lettre suivante, conclusion d'un incident qui eût pu être sérieux. « Cher monsieur, laissez-moi vous exprimer mon très vif regret de ce que j'ai dit au sujet des balles explosives. Aujourd'hui, convaincu par des témoignages certains, je vous prie de faire savoir que je désire être dans les meilleurs termes avec tous les Anglais. Veuillez être auprès d'eux mon interprète. Très sincèrement vôtre. » Les premiers jours d'août me vinrent à Londres. Bientôt, le vert déroulement du Veld, les collines du sommet plat, les salles de dysentérique, ne furent plus pour moi qu'une vision de rêve.